Prions. Nous voulons te remercier, ô Dieu de toute grâce, le Dieu de la Bible, le Dieu de la révélation. Nous voulons te remercier et te rendre grâce parce que tu as choisi de communiquer avec l'homme. Tu as choisi de te faire connaître, de faire connaître ta pensée, ta volonté. Tu as choisi de faire connaître ce que tu étais et qui nous sommes à tes yeux. Tu as choisi aussi de construire pour nous un cadre dans lequel, au sein de ton royaume, nous avons un rôle, une place, un statut. Merci pour tout cela. Merci pour ta parole que nous avons la liberté d'ouvrir, que nous pouvons explorer, étudier, découvrir. Seigneur, merci pour l'Esprit Saint qui peut nous accompagner dans cette entreprise. Merci pour l'éclairage de l'Esprit qui peut nous aider à comprendre des choses que peut-être on n'aurait pas pu comprendre autrement. Merci encore de nous guider ce matin dans cette découverte, dans cette redécouverte peut-être de ce livre de Juges. Sois béni notre Dieu au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Bien, alors, nous allons ce matin traverser, parcourir les 7 premiers chapitres du livre des Juges. Vous en faites pas, on ne va pas les lire, hein. Parce que je sais bien que si on doit les lire, ça nous prendra quand même quelques temps. Mais on va pas les lire, on va juste les parcourir. Je vais épingler certains événements qui gardent une certaine cohérence du livre, tout en relevant des leçons, des enseignements qui sont quand même utiles dans le cadre d'une prédication. Les 7 premiers chapitres. Alors, la fois passée, j'avais dit que le livre de Juges fait partie des livres historiques. Les 12 livres de la Bible, dans l'Ancien Testament, qui parlent de la royauté, qui parlent de comment la royauté se met en place ou comment la royauté humaine peut se poser comme un problème. Mais c'est aussi un livre qui parle d'une manière générale des retombées de la conquête de Canaan. Voyez-vous, je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu, lorsque son peuple était dans le désert, l'avait préparé à pouvoir aller prendre, conquérir la terre de Canaan au-delà du Jourdain. Et si vous avez déjà lu des livres comme le livre de Nombres, vous allez voir que dans le livre de Nombres, Dieu va positionner les différentes tribus en leur disant la manière dont vous êtes positionnés par rapport au tabernacle, eh ben c'est comme ça que quand vous allez aller à la terre promise, vous allez vous situer comme ça. Donc Dieu avait déjà localisé le peuple dans le désert de manière à ce que le peuple, quand il arrive à la terre promise, il sait exactement où doit se situer Judas, où doit se situer Aser, où doit se situer Nephtali, Zabulon, etc., Manassé. Tout le monde savait à peu près comment il doit se situer. C'était déjà un exercice. Le livre de Nombres est d'ailleurs un livre qui prépare en quelque sorte la guerre qu'ils vont donc affronter. Donc, le livre de Juges va alors raconter un peu comment tout ça s'est passé. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ces choses ont-elles été comme Dieu avait demandé? Le livre de Juges commence avec la fin de la carrière de Josué. Josué, vous savez, c'est cet homme, l'assistant de Moïse, que Dieu va choisir pour pouvoir commencer la conquête de Canaan. Et vous savez que le bilan de Josué est un bilan très mitigé. En fait, il ne réussira pas à réaliser le plan de Dieu. Il ne réussira pas à faire tout ce que Dieu a demandé qu'on fasse pour conquérir Canaan. Son échec, ou son bilan mitigé plutôt, je dirais pas échec, bilan mitigé, c'est pas dû à lui. C'est pas lui qui est le responsable. Ce sont les tribus elles-mêmes. Arrivés à Canaan, ils ont lancé quelques guerres. Et puis, comme leur réputation s'était déjà bien faite, ben, ils se sont dit, on s'installe. On fait pas de guerre. C'est peut-être plus simple. L'idée de Dieu, c'était quoi? L'idée de Dieu, c'était que chaque tribu allait avoir le concours des autres tribus pour gagner son territoire. Une fois que la tribu a eu son territoire, cette tribu laisse à son territoire et prend les hommes vaillants, les guerriers, etc. Et ensemble, ils vont combattre avec les autres tribus pour les autres tribus. De sorte que c'était une entraide entre les tribus. Devinez ce qui s'est passé. Quand Dan a eu sa tribu et que Judas l'a appelé, il a dit, écoutez, j'ai beaucoup à faire. Franchement, voyez ce qu'il veut dire, il faut exploiter. Je ne vais pas aller avec vous. Et c'est comme ça que les choses sont affaiblies. Josué donc n'a pas eu un bilan mitigé à cause de lui, mais à cause de chaque tribu qui a pris son attitude. Et au premier chapitre du livre de Juges, on voit le peuple qui va consulter Dieu pour demander, Seigneur, qui va commencer? Qui commence la conquête? Bien sûr, Josué de son temps, il savait très bien ce qu'il fallait faire. C'est Josué qui poussait. Maintenant, Josué est décédé. Maintenant, il se demande qu'est-ce qu'on doit faire. Et voilà que Dieu dit, OK, puisque vous me le demandez, Judas commence. Et donc, Dieu a désigné d'abord la tribu de Judas. Et la tribu de Judas va mener une conquête victorieuse. Elle va remporter victoire sur victoire. Elle va vraiment s'étendre et étendre son territoire comme il faut. Quel était le secret du succès de Judas, de la tribu de Judas? C'est d'avoir obéi à la volonté de Dieu, d'avoir mené cette guerre comme si Dieu était leur commandant suprême. Peut-être juste pour illustrer, chapitre 1, verset 4. D'abord, oui, c'est un peu du saucissonnage que j'ai donné à Jacob, mon pauvre Jacob, mais comme il m'aime beaucoup, il va me pardonner. Donc, Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens, les Phérésiens, y bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Voyez, Judas gagne la guerre, mais c'est Dieu qui permet cette victoire. Voyez, c'est l'action de Dieu. Pourquoi? Parce que Judas s'est mis sur la volonté de Dieu. Un autre verset, le verset 10. Judas marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kirjat Arba. Il bâtit Sheshai, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Voyez, ça c'est verset 11. De là, il marcha contre les habitants. 11. Reviens. Voilà. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Enfin, oui, voilà, je l'ai déjà dit. Et tout ça, ce sont des extraits qui montrent la marche victorieuse de Judas. Et donc, le verset 19 aussi, que tu avais déjà donné ici. L'Éternel fut avec Judas. Et Judas se rendit maître de la montagne. Ça, c'est un épisode bien précis. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Judas, dans son ensemble, va mener sa conquête d'une manière victorieuse. Bien sûr, d'autres tribus, notamment Éphraïm et d'autres, vont l'aider. Mais d'une manière générale, il va gagner son défi. Une autre tribu aussi va réussir aussi à mener victorieusement sa conquête. C'est la tribu de Joseph, lorsqu'il était encore ensemble, puisque vous savez qu'après ils ont été fractionnés en demi-tribu de Manassé et demi-tribu d'Éphraïm, les deux enfants de Joseph. Bon, on peut voir ça au verset 22. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel et l'Éternel fut avec eux. Je voulais relever ce détail-là pour montrer que chaque fois qu'il y a victoire, il y a conquête, réalisation de la conquête, c'est parce que l'Éternel est avec eux. C'est parce qu'ils font la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils laissent Dieu mener les choses où ils se conforment à ce que Dieu a montré. Cependant, malheureusement, les autres tribus ont échoué dans leur entreprise de la conquête. Que ce soit Benjamin, Manassé, Éphraïm, Zabulon, Aser, Nephtali, toutes ces tribus ont échoué, ont raté. Pourquoi? La cause de leur échec, c'est pas les défaites militaires. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de guerre, de militaires. Non, la cause principale de leur échec, c'est la désobéissance à l'ordre de Dieu. Chacune de ces tribus-là, au lieu de détruire les peuples, au lieu de les chasser, au lieu de ne pas se mélanger avec eux, qu'est-ce que ces tribus ont fait? Ils ont fait des alliances. Ils ne les ont pas chassés, mais ils leur ont imposé un tribut, un impôt, en leur disant, vous nous devez ça, 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 mais vous restez là, vous pouvez rester. Ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Dieu avait demandé, vous les vouez interdits, vous les chassez, vous ne vous mélangez pas avec eux. Ils se sont donc contentés du minimum. Évidemment, cela a entraîné la colère de Dieu. La colère de Dieu qui s'est apaisantie sur eux et Dieu a exécuté sa sentence. Avant d'exécuter sa sentence, Dieu va d'abord envoyer un prophète et c'est intéressant de relire, de réécouter ce prophète pour voir un peu ce que Dieu a toujours voulu que son peuple fasse en ce qui concerne la conquête. Tu peux montrer le chapitre 2, le verset 1, 2 et 3. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Et donc Dieu va dire, pourquoi faites-vous cela? Je dis alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront à piège. Ça c'est la volonté de Dieu. Évidemment, l'effet est immédiat, le peuple voit la menace de Dieu, le peuple se répand, il demande pardon, etc., etc. Et malheureusement, c'est toujours encore un retour à Dieu qui est éphémère. En fait, vous avez remarqué au verset 3 quelque chose qui a été dit là. Et je ne sais pas si à ce moment-là le peuple a saisi ça. Et je ne sais pas si nous, quand on passe sur ce texte, on voit ça. Je ne les chasserai point devant vous. C'était Dieu qui opère, qui se sert de son peuple comme un instrument pour chasser ses peuples. Mais il dit, je ne les ferai plus. Ils seront à vos côtés désormais. Et le fait de cohabiter avec vous, leur Dieu sera un piège pour vous. Un piège, ça veut dire quelque chose qui vous coince. Vous êtes pris là-dedans. Vous ne savez plus sortir là-dedans. Vous êtes coincé là-dedans. C'est ça, en quelque sorte, un élément super important. Le fait de ne pas exécuter l'ordre de Dieu comme il le demande, et ça ouvre la porte à l'idolâtrie, c'est-à-dire à la connaissance des autres, une autre divinité. Et le fait de connaître une autre divinité entraîne que on commence à se poser des questions sur notre vrai Dieu. Le doute s'installe, on relativise, on prétend maintenant que tous les dieux sont bons. En fin de compte, il n'y a aucun dieu qui est mauvais. Vous voyez, ça commence avec la cohabitation. Ça commence avec le fait de ne pas respecter la parole. Première leçon que je voudrais peut-être ici juste épingler, notre réussite dépend de notre obéissance, de notre fidélité. La fidélité, c'est faire exactement, traduire exactement ce que Dieu a demandé. C'est faire exactement ce que Dieu a demandé. C'est là le facteur de la réussite, c'est là le facteur du succès. Josué chapitre 1, Dieu l'avait déjà dit en son temps, en exhortant Josué. Souvenez-vous, Josué chapitre 1, du verset 7. Fortifie-toi seulement, et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La fidélité, c'est ça. C'est la façon de se conformer à ce qui a été demandé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu veut notre réussite. Dieu veut la réussite de ce peuple. Il veut voir la conquête. Mais la condition, c'est qu'on obéisse, qu'on soit fidèle à ce que Dieu a prescrit. Cette génération va passer. Et puis, une deuxième génération va arriver. À partir du chapitre 2, donc, nous allons voir arriver une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, tu montreras ça après. Cette nouvelle génération va être... Oui, parce que si tu commences à monter tous les versets, on s'en sortira. On n'arrivera pas à 7, hein, et ils vont m'en vouloir. Hein. Cette nouvelle génération va être une génération qui aura comme caractéristique qu'elle ne connaît pas Dieu, qu'elle ne connaît pas l'Éternel. Que c'est une génération qui n'a jamais appris les exploits de Dieu, qui ne sait pas qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu représente pour Israël. Ils ne savent pas. C'est une génération qui ignore totalement Dieu. Et cette génération va se mettre à adorer et à servir le Dieu, les Baals. Et elle va carrément abandonner l'Éternel. Avec cette génération commence le cycle qui est propre à ce livre de Juges. Le livre de Juges est un livre qui fonctionne d'une manière cyclique. Le péché, désobéissance, la colère de Dieu, châtiment, et puis ensuite le peuple qui se répand parce qu'il se rend compte qu'il souffre trop, et puis Dieu envoie un libérateur, un juge, et puis un temps de paix, 40 ans, j'ai vu là quelque part, c'était même 120 ans, et puis rebelote, le peuple recommence encore à pécher, à faire des choses qui déplaisent à Dieu, encore suscite la colère de Dieu et le châtiment qui suit, et puis le peuple se rend compte que, waouh, on a été trop loin, Seigneur pardonne-nous, repentance, et puis Dieu envoie encore un juge, un libérateur, ils sont délivrés pendant un temps, et puis rebelote encore, c'est comme un cycle. Et cette génération, la nouvelle ici, celle que Josué n'a pas connue, eh bien celle-là va commencer ce cycle de qui est propre à ce livre de Juges. Et avec cette situation, donc, nous avons une génération qui devient donc idolâtre, et encline à être adultère, c'est-à-dire à tromper Dieu, à vivre de manière à avoir deux divinités, à combiner deux dieux en même temps. Et Dieu ne peut pas supporter ça. Dieu ne peut pas supporter ça. Et donc, c'est ici qu'on explique maintenant tout le sens du livre des juges, parce que la part des juges devient quelque chose d'important. Le juge est celui que Dieu envoie pour dénouer la difficulté dans laquelle se trouve le peuple. Donc c'est là que tu peux montrer ce texte. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Dieu de grâce. Mais à la mort du juge, le peuple se corrompait de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, bon, la suite c'est, eh ben, je vais encore les sanctionner une fois de plus. Et avec l'idolâtrie, Dieu va augmenter les souffrances du peuple. Avec l'idolâtrie, Dieu va augmenter aussi les châtiments. Voyez-vous, dans ce contexte, et ce livre de Juges nous fait découvrir que les châtiments de Dieu n'ont pas pour but de nous faire du mal. C'est pas ça qu'il veut. Dieu cherche à ce que, à travers les châtiments, il puisse nous emmener à comprendre et à nous mettre à l'épreuve et à revenir sur le bon chemin. Moi, j'ai fait des études de criminologie et Une des fonctions de la punition, d'après tout ce qu'on apprend en criminologie, c'est que ce n'est pas simplement, comme on dit, une fonction réparatrice, c'est-à-dire le but est de réparer le mal. C'est pas seulement une fonction pénale, dans le sens de on veut punir en vue de récupérer la personne, lui permettre la réhabilitation. Mais il y a une fonction de vengeance. Une fonction de dire la société a besoin de se calmer symboliquement à partir d'une sanction de quelqu'un. On ne peut pas laisser les gens comme ça, sinon les gens vont s'auto-défendre. Et donc on va tomber dans les vendettas, dans les règlements des comptes, dans la justice privée, hein, que les gens vont commencer à se défendre. Donc la justice a aussi cette fonction-là, de pouvoir prévenir la vengeance, en prenant symboliquement le sens de la vengeance. Malheureusement, chaque situation du peuple ici va, malgré les châtiments que Dieu leur impose, ça va pas, non pas les aider, mais toujours les pousser à la révolte. Vous savez, ce livre est un livre qui m'étonne beaucoup parce que le nombre de fois qu'on dit la colère de Dieu s'enflamma. Vous allez voir, lisez-le, vous allez voir, vous allez compter. Moi, j'en ai compté rien que pour les trois premiers chapitres, j'en ai compté 4 fois. Et il y en a plein. Et il y a aussi l'autre texte, l'autre phrase aussi, c'est « Ce que fit le peuple déplut à l'Éternel ». C'est vraiment un peuple qui est occupé à ne pas obéir du tout au Seigneur. Je voudrais juste m'arrêter encore pour tirer une autre leçon ici à propos de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait de donner à une autre divinité ou une autre chose la place que nous réservons à Dieu habituellement. Et cette attitude engendre la colère de Dieu. Et la colère de Dieu entraîne l'exécution du châtiment. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas se mélanger. Dieu ne peut pas accepter qu'on prenne sa place, qu'on lui prenne sa place. Il ne peut pas laisser quelqu'un prendre sa place. Il est Dieu. L'idolâtrie, donc, est source aussi de quelque chose de plus grave. C'est l'adultère. Parce que parfois, quand on est idolâtre, on va être idolâtre, on aime d'un côté Dieu et de l'autre côté autre chose. Et les deux choses cohabitent dans notre vie en ayant la même importance. C'est ça l'attitude d'adultère. Un peu comme une femme mariée ou un homme marié qui trompe son conjoint, en quelque sorte. La conséquence de l'idolâtrie, c'est la servitude. Quand on devient idolâtre, dans le cas en tout cas du peuple ici, le fait d'être devenu idolâtre, ça entraîne qu'ils sont faibles devant les ennemis. Et donc les ennemis les transforment en esclaves. Lorsque on ne met pas Dieu à la première place, et que c'est pas Dieu qui règne principalement, mais que ça devient autre chose qui règne à la place de Dieu, ou autre chose et Dieu en même temps, on est spirituellement faible, on est spirituellement malade, et donc incapable de pouvoir vivre sa vie pleinement. Voilà pourquoi l'idolâtrie, c'est quelque chose de très dangereux. Très dangereux. Mais, petite réflexion. D'où vient, d'après ce texte, dans le texte ici, dans le contexte, d'où vient cette idolâtrie? Comment l'expliquer? Quelle est son origine? Ça m'a frappé, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Avez-vous remarqué, on a dit, une nouvelle génération qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas ses exploits, ce que Dieu avait fait, ce que Dieu était pour Israël. Donc l'idolâtrie, c'est une chose qui vient bien sûr avec la désobéissance, parce qu'on n'est pas fidèle, ok? Mais ça vient aussi à cause de l'ignorance de Dieu. Un peuple qui ne connaît pas Dieu, automatiquement, il se tourne vers d'autres divinités. Il ne connaît pas la valeur de Dieu. Deutéronome, je vais peut-être donner le texte. Très bien. Je vais vous le lire en cours, Deutéronome chapitre 6. C'est le texte, l'exhortation de Moïse au peuple d'Israël. Quelques-uns connaissent, hein, ce qui est dans Deutéronome 6. Après avoir déclaré que Dieu seul est Dieu, il va donner des recommandations au peuple. Il dira, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme un fronton sur tes, entre tes yeux. Tu écriras sur les poteaux de ta maison, sur les portes, etc. » Et le Seigneur explique cela. Explique l'importance d'éduquer, de transmettre, de toujours continuer à être fidèle dans ce travail de transmission. Pourquoi? Parce que c'est important que le peuple continue à aimer Dieu, à le craindre, à marcher avec lui. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point vers d'autres, après votre Dieu, après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de Dieu, de l'Éternel ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus de la terre. Et puis, toujours cette exhortation. L'ordre, c'est quoi? Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura, il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel Dieu l'a dit. Donc, c'est un programme qui existe. Et ici, le peuple ne sera pas fidèle à ce programme. La nouvelle génération ne connaîtra pas Dieu. Et à cause du manque de transmission, eh bien, cette génération tombera dans l'idolâtrie. La transmission fidèle de la parole de Dieu est comme un passage de bâton relais pour encore et encore plus de Dieu dans la vie des hommes. C'est pas étonnant que notre société d'aujourd'hui ne connaissent pas Dieu. Ça fait quand même depuis le siècle de lumière que des générations entières n'ont pas du tout entendu parler de Dieu, ou de moins en moins. On nous confine de plus en plus dans le privé, le public de plus en plus, on nous évacue. Pourquoi? Pour que justement dans le public les gens ne sachent pas qui est Dieu. Après, hier j'entendais un jeune me dire que son Dieu à lui c'était son airsoft. Il fait l'activité de Airsoft et il dit ça, c'est son Dieu à lui. J'ai voulu rectifier un peu. Je dis, mais non, mais ça, c'est pas ton Dieu. Mais j'ai vu l'insistant, j'ai dit, ben, ça sert à rien que je me dispute avec lui. Il sait même pas ce que ça veut dire être. Il sait même pas ce que ça veut dire Dieu. Donc, voilà. C'est l'ignorance de Dieu à cause justement du fait que le relais n'est pas passé. Veillons à ce que, en tout cas, à notre niveau, à nous, famille chrétienne, que nous puissions vraiment faire connaître Dieu à travers sa parole. Le livre de Juges évoque l'attitude, bien sûr, pécheresse du peuple, et vous allez le voir, ces deux choses qui sont comme des leçons pour nous aussi aujourd'hui, à la fois l'idée que la réussite dépend de notre fidélité à Dieu, et la deuxième chose, l'idolâtrie, est quelque chose de terrible parce que ça a des conséquences graves. Peut-être si nous avons parlé du peuple et de son attitude, je ne vais pas revenir sur beaucoup des faits qu'il y a là parce que le temps nous manquerait. Peut-être aussi parler aussi un peu de juges, parce qu'on parle aussi des juges. Et j'aimerais peut-être juste prendre deux d'entre eux, qui sont quand même ceux auxquels on parle un peu plus dans la partie que nous sommes en train d'aborder. D'abord préciser que les juges, le livre de juges décrit les juges comme étant des chefs de guerre, des chefs de guerre suscités par Dieu dans le but de mettre fin à l'oppression du peuple. Ok? Ce sont des êtres humains avec des qualités et des défauts. Ce ne sont pas des rois comme étaient David ou Salomon. Ce n'est pas des rois dans ce sens-là. C'est des chefs, c'est des petits chefs. Et j'aime bien dire ça parce que ça souligne à la fois le côté limité de leur pouvoir. Ils n'ont pas des dynasties, ils n'ont pas un engagement, ils n'ont pas un pouvoir sur tout Israël. Et puis, ça souligne aussi leur côté imparfait, le côté imparfait de leurs œuvres. Quand vous lisez les juges, vous voyez parfois que certains se permettent des choses qui sont assez déroutantes. Mais j'aimerais peut-être aborder deux grands noms de juges ici. J'espère que je pourrai le faire rapidement pour vous libérer. J'aimerais parler de Déborah, une dame, et de Gédéon. C'est assez décoiffant dans la Bible, n'est-ce pas, de voir une dame qui est juge en Israël. Une femme, d'ailleurs, quand on voit à la lumière du texte, une femme de grande valeur morale et spirituelle. Une excellente stratège politique. Une femme intelligente. Mais une femme qui est d'abord une prophétesse. Tu veux bien montrer chapitre 4, verset 5 ? Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Une femme qui est à la tête du peuple d'Israël. Et elle va mener ce peuple pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, Israël sera en paix sous l'égide de cette dame. On lui doit d'ailleurs un très très beau cantique, le cantique de Déborah, au chapitre 5, qui est un cantique magnifique. Et dans ce cantique, j'aime particulièrement sa petite explication. Nous allons lire le verset, chapitre 5, verset 7. Voilà. Écoutez, dans son cantique, ce qu'elle dit, Déborah. Les chefs étaient sans force en Israël. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Comment comprenez-vous cette phrase? C'est une femme de grande valeur. C'est une femme qui se lève parce que il n'y avait plus d'hommes capables de prendre les choses. Les hommes avaient failli à leur tâche. Les hommes avaient été défaillants. C'est comme ça qu'elle s'est levée. Et regardez l'humilité. Elle ne dit pas « je me lève comme un père, mais je me lève comme une mère en Israël. » Une femme qui prend sa place, qui est consciente de sa place. Je ne vais pas aujourd'hui parler de ça, parce que ce truc m'inspire tellement le rôle de la femme dans l'Église. Le rôle de la femme, la place de la femme dans l'Église. Ça va être un très très beau texte pour étudier ça. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je ne veux pas que certains maris et certaines femmes se regardent en chaîne phrase. C'est pas ça. Bon, on en parlera, Dieu permettra que nous puissions revenir sur cette question. Mais ce que Déborah va faire, parce qu'elle ne veut pas prendre la place de l'homme, parce qu'elle comprend très bien quelle est la fonction masculine de juge, elle va partager, c'est la seule juge qui va partager sa fonction avec un homme, Barak. C'est Barak qui va être son chef de guerre, qui va être son général, son premier ministre, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas c'est Barak qui va travailler avec elle, de sorte que ça sera une co-présidence, une co- je ne sais pas comment on appelle le statut de la fonction de juge, mais voilà. Donc, c'est une femme qui prend sa place de femme, mais qui est obligée de le faire parce que des hommes ont été défaillants. Mes amis, je m'adresse aux hommes qui sont dans la salle. Si nous ne prenons pas notre rôle d'homme comme Dieu nous demande de le prendre, d'autres gens prendront notre rôle. Ça sera toujours comme ça. Dieu dit que s'il n'y a plus de personne pour le louer, qu'est-ce qu'il dit? Des pierres le loueront. C'est une question de responsabilité. Je passe au deuxième personnage. Gédéon. Gédéon, il est un des juges le plus célèbre dans l'histoire des juges. Lui seul aussi mériterait toute une prédication. C'est un homme qui n'a pas beaucoup d'estime de soi au départ. C'est un homme qui se considère comme petit, insignifiant. Il prends pas pour quelqu'un qui a de la valeur. Et attention, ce n'est pas une question d'humilité, hein, de modestie, c'est une question de complexe. Il est comme ça, il se prend pas pour quelqu'un d'important, il a peur. C'est un homme qui, non seulement il n'a pas, il a un petit complexe de lui-même, de sa famille, mais il est aussi un homme qui est fatigué, qui n'a plus beaucoup confiance en Dieu, qui a perdu sa foi quelque part en Dieu. Il fait partie de ces gens qui se posent des questions sur les actions de Dieu. Il fait partie de ces gens qui se disent abandonnés par Dieu. Parce qu'il y a un ennemi puissant qui oppresse à cette époque-là le peuple d'Israël. C'est le peuple de Madian. Ils oppressent tellement le peuple que les gens doivent aller se cacher dans des grottes. Ils doivent aller se cacher dans des endroits pour échapper à leur furie. Quand le peuple d'Israël réussit à rassembler un peu de récolte, un peu de vivres, les Madianites arrivent, ils confisquent tout, ils prennent tout, ils s'en vont avec. Ils laissent le peuple dans le dénouement. Vous avez déjà vu un film, un dessin animé qui s'appelle Mille Pattes? Mille et une pattes, non? Bon, quand on veut regarder des dessins animés avec les enfants, parfois on se retrouve en train de faire des choses comme ça. Mes enfants, ils étaient petits, donc les grands, quand ils étaient petits, j'aimais bien m'amuser à regarder certains films avec eux, des dessins animés, et c'était le dessin animé des fourmis. C'est des braves fourmis qui sont maltraitées par des sauterelles. Je sais pas si... Et alors, chaque fois, ces pauvres fourmis essayent de faire leur petite récolte, essayent d'avoir un peu de vivre, et alors, chaque fois, les sauterelles débarquent toujours au moment de la grande moisson, et ils confisquent tout, et ils partent avec. Et j'aimais bien la question que pose, à un moment donné, une des sauterelles, le petit frère du chef, qui est vraiment complètement bête. Vous savez, parfois dans la famille, il y a toujours un qui n'est pas toujours... ça arrive parfois, pas tout le temps, mais enfin, voilà. Et lui, c'était vraiment le gars qui n'était pas très très fut-fut, quoi. C'est vraiment l'idiot du village, en quelque sorte. Et donc, il va demander à son frère, mais ils ont... On a assez à manger. Pourquoi est-ce qu'on va encore confisquer? Regarde tout ce qu'on a comme vivre. Pourquoi on va encore prendre des vivres chez ces pauvres fourmis? Alors d'abord, il reçoit une baffe de son frère qui lui dit, tu comprends rien à rien. C'est une question de domination. Vous comprenez ça? Tu comprends ça? C'est une question de domination. Il faut que, même si on n'en a pas besoin, on va quand même leur confisquer leur récolte pour leur montrer que c'est nous les plus forts. C'est nous les chefs. Ils doivent continuer, on doit entretenir la peur, la crainte de ces gens-là. Eh bien, figurez-vous, c'est peut-être une allusion rigolote, mais vous savez quoi? Le peuple, dans le livre de Juges, on compare les Madianites à des sauterelles. Ils disent qu'ils viennent envahir le peuple d'Israël comme les sauterelles. Mais Gédéon, c'est un malheureux, parce qu'il voit tout ce drame-là. Est-ce qu'on peut regarder le texte? C'est probablement le dernier texte parce que, regardez, Dieu choisit Gédéon, chose étonnante. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ha! Écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec vous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. J'ai sauté un autre texte où justement il disait mais qui suis-je moi? Je suis le plus petit de la maison, la plus petite. Je suis le plus petit de ma famille et qu'est-ce que moi je peux faire moi? Chose étonnante, comment Dieu peut-il choisir un homme de ce genre-là? Comment Dieu peut-il faire son choix sur cet homme? Et comment l'ange éternel peut-il lui dire, vaillant guerrier? Mais c'est un foussard. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. La réponse, elle est dans le texte. Parce que, la seule explication pour laquelle, à part la grâce de Dieu, bien sûr, la seule explication pour laquelle Dieu choisit cet homme, c'est que Dieu voit quelque chose en lui que nous ne voyons pas. Qu'en apparence, nous ne voyons pas. Cet envoyant guerrier, Dieu voit ça. Mais nous, en apparence, on voit un homme timide, apeuré, peu sûr de lui, etc. Souvenez-vous, c'était la même chose avec David, le roi, un gamin, septième de la famille, un petit roux, apparemment turbulent. On envoie paître le petit troupeau, et les grands, les plus beaux, les solides, les frères, ils sont à côté de Saül. Ça, c'est les militaires, c'est les gens forts. Pourtant, Samuel, quand il arrive pour oindre le roi, il va évidemment aller, comme j'aurais fait moi aussi, vers ceux qui sont les plus bâtis, les plus intelligents, les plus forts. Non. C'est celui-là, ce petit-là. Peut-être nous allons juste terminer avec ça. C'est un encouragement. Gédéon deviendra probablement un des juges le plus valeureux, le plus puissant dans l'histoire des juges. Peut-être, juste terminer avec ça, c'est peut-être un encouragement dans ce texte, dans ce livre de juges, nous dire que Dieu nous connaît. On peut, nous, avoir l'impression d'être à nos propres yeux ou aux yeux des autres, des gens insignifiants, des gens de rien du tout. Mais Dieu voit notre valeur. Dieu cherche à mettre en avant cette valeur-là, cherche à mettre en exergue cette valeur-là, cherche à la faire ressortir de nous pour sa gloire. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce texte et ta parole. Merci pour tout ce que tu nous révèles. Aide-nous à la vivre au nom de Jésus. Amen.